Quelle action publique pour l'environnement? Comment l'environnement peut-il devenir un objet d'action publique? Une diversité d'acteurs impliqués. L'existence d'une action publique pour l'environnement ne va pas de soi. Elle suppose la mobilisation d'acteurs divers, ONG, entreprises, experts, partis, mouvements citoyens, voire les pouvoirs publics eux-mêmes qui portent les problèmes environnementaux dans l'espace public. Leur action consiste d'abord à identifier un problème, puis à en proposer un cadrage, c'est-à-dire préciser la nature du problème, ses causes et les solutions adéquates. Les promoteurs de problèmes publics doivent également argumenter pour justifier de son importance et le populariser auprès du public et des décideurs, notamment via les médias. La construction d'un problème public peut aboutir à sa mise à l'agenda politique lorsque le problème est mis en débat et suscite l'intervention des pouvoirs publics. Coopération et conflit entre acteurs. Les acteurs impliqués dans la construction des problèmes publics environnementaux peuvent entretenir entre eux des rapports de coopération ou de conflit. En effet, différents acteurs peuvent coopérer pour promouvoir un même problème. Cela suppose que ces acteurs proposent des cadrages similaires, du moins compatibles, du problème. Toutefois, certains d'entre eux portent des visions opposées et concurrentes d'un même problème. Ils peuvent alors entrer en conflit pour imposer leur propre cadrage. Un acteur peut aussi avoir intérêt à empêcher la construction d'un problème public environnemental. Dans ce cas, le conflit peut déboucher sur un enterrement du problème. Une action publique articule en différentes échelles l'exemple de la biodiversité. Les politiques environnementales sont marquées, comme l'ensemble des politiques publiques, par une perte de centralité de l'État. Les collectivités territoriales d'abord jouent un rôle important d'initiative et surtout de mise en œuvre des politiques environnementales. Conseils régionaux, conseils départementaux et conseils municipaux ont la capacité d'adapter les politiques aux spécificités de leur territoire et de mobiliser les acteurs locaux. S'agissant de la biodiversité, par exemple, les collectivités peuvent mettre en place des mesures de protection adaptées aux écosystèmes singuliers présents sur leur territoire. L'Union européenne joue aussi un rôle décisif dans l'action publique pour l'environnement. Les politiques environnementales menées en France sont, pour 75% d'entre elles, une traduction des décisions prises au niveau européen. Agir à cette échelle permet d'harmoniser les politiques des États membres, évitant le dumping environnemental. Enfin, face à des enjeux concernant l'ensemble de la planète, se met aussi en place une action publique mondiale. En témoigne la création de groupes d'experts intergouvernementaux, tels que le Groupe international d'experts pour le climat, GIEC, ou la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, qui produisent des états des lieux et scénarios quant à l'état de l'environnement mondial. Quels instruments pour l'action publique environnementale? L'exemple du climat. La réglementation, un instrument pour contraindre. L'action publique pour l'environnement peut avoir recours à différents instruments. À commencer par la réglementation environnementale. Il s'agit pour l'État de mettre en place des normes contraignantes pour les acteurs économiques, normes qui peuvent être de qualité, d'émission, de procédés ou de produits. Dans le cadre de la politique climatique, les normes d'émission sont ainsi utilisées pour imposer aux constructeurs automobiles la mise sur le marché de moteurs moins polluants. Le recours à l'instrument réglementaire permet de connaître avec certitude le niveau de pollution qui sera atteint et ainsi de respecter les seuils de dangerosité. Ainsi, la norme est privilégiée en cas de menace grave et peut aller jusqu'à l'interdiction complète d'un produit ou d'un procédé. La contrainte réglementaire peut également inciter les entreprises à innover. En revanche, le niveau de pollution optimal est souvent difficile à connaître, ce qui rend difficile la définition d'une norme. Par ailleurs, une fois la norme respectée, les acteurs économiques ne sont pas incités à améliorer leur comportement. Enfin, les effets bénéfiques de la norme peuvent être neutralisés par un effet volume. la pollution générée par la production ou consommation de chaque bien diminue, mais la quantité de biens augmente, si bien que la pollution totale ne diminue pas. Taxation et subvention, des instruments pour inciter. Des instruments incitatifs peuvent aussi être utilisés pour internaliser les externalités liées à l'environnement. Ainsi, en cas d'externalité négative, la taxe environnementale amène les agents à prendre en compte les coûts externes engendrés par leur activité, par exemple, les effets de leurs émissions polluantes sur le climat. De la même manière, les subventions à l'innovation verte amènent les agents à prendre en compte les bénéfices externes d'une activité plus protectrice de l'environnement. Ainsi, elles encouragent des comportements plus respectueux de l'environnement. Ces instruments sont plus souples que la réglementation, chacun pouvant faire le choix de moins polluer ou pas, en fonction de ses propres coûts de dépollution ou d'investissement. La taxe environnementale génère aussi un double dividende. D'une part, elle entraîne une diminution de la pollution. D'autre part, les bénéfices engendrés pour l'État permettent de diminuer d'autres impôts. Toutefois, les taxes environnementales peuvent être source d'inégalités, le poids de la taxe augmentant à mesure que diminue le revenu. Elles peuvent aussi induire des mesures de dumping. Les marchés de quotas d'émission, un instrument pour négocier. Les pouvoirs publics peuvent enfin mettre en place un marché de quotas d'émission. Dans ce cas, les entreprises se voient attribuer des permis de polluer en quantité limitée. Chacune peut ainsi faire le choix de réduire ses émissions pour revendre une partie de ses quotas à d'autres entreprises ou bien de continuer à polluer et, si nécessaire, d'acheter des permis supplémentaires sur le marché. Si cet instrument permet de répartir plus efficacement les efforts en fonction des coûts de dépollution de chaque firme, il suppose, pour être efficace, que les permis soient bien répartis et distribués en quantité suffisamment faible. Sur le marché européen de quotas d'émission, le surplus de permis a ainsi entraîné une forte baisse du prix du carbone, diminuant d'autant l'incitation à moins polluer. Une action publique internationale pour l'environnement est-elle possible ? Des biens communs appelant une gestion internationale. Les biens environnementaux, à commencer par le climat, s'apparentent à des biens communs. On peut donc craindre à leur égard une tragédie des communs, selon l'expression du biologiste Gareth Hardin, c'est-à-dire une surexploitation de ces ressources qui sont libres d'accès. Face à cette tragédie, Hardin propose une privatisation des ressources ou une gestion par l'État. Une troisième voie a été mise en évidence par l'économiste Elinor Ostrom, qui a démontré qu'une gestion communautaire des communs était possible. Le climat, étant un bien commun mondial, appelle cependant des solutions à l'échelle internationale, d'où la multiplication des négociations et accords internationaux depuis le début des années 1990. Les contraintes d'une action publique internationale pour l'environnement. L'action publique internationale pour l'environnement peut se heurter à des comportements de passagers clandestins. Les États peuvent trouver un intérêt à bénéficier des efforts fournis par la communauté internationale sans y prendre part. Cependant, ces comportements ne mettent pas nécessairement en danger les accords. Malgré la défection de certains, les autres États peuvent conserver un intérêt à coopérer. Par ailleurs, l'action internationale pour le climat est confrontée aux inégalités de développement entre pays. Ne faut-il pas demander un effort plus important aux pays riches, qui sont aussi les plus gros pollueurs ? On parle aujourd'hui d'une dette climatique de ces pays vis-à-vis des pays pauvres.